Bonjour à tous, bonjour à toutes les nouvelles du ciel et tous nos meilleurs voeux avec ces nouvelles du ciel. Nous allons aujourd'hui voir ce qui nous intéresse pour ce début d'année 2019, une année que l'on vous souhaite pleine d'étoiles, avec Denis. Bonjour Denis.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gisèle, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour vous parler bien sûr d'astronomie, dans la bonne humeur.
Tout à fait, mais c'est très intéressant et c'est vrai que nous nous étions quittés l'année dernière avec ce qu'il y avait entre ces étoiles, entre ces planètes. Et vous nous en aviez appris beaucoup, nous avons terminé l'année avec une excellente nouvelle de découverte qui a été faite aux Pléiades. On va rester dans ce milieu interstellaire. Qu'est-ce que ça signifie, un milieu interstellaire ?
Alors déjà, le mot interstellaire, vous avez inter qui signifie entre et stellaire qui provient de stellar qui signifie étoile.
Oui.
En fait. C'est tout le milieu situé entre les étoiles et entre tous les corps célestes, hein, parce que dans le ciel, on n'a pas que des étoiles, on a aussi des planètes, des astéroïdes, des comètes. Donc le milieu interstellaire, c'est le milieu dans lequel, en fait, baigne l'ensemble de ces corps célestes.
Mm-hmm. Tout ça, ça bouge. C'est vrai que vous nous aviez expliqué que c'est très rare quand ça se percute. Il n'y a que les astéroïdes qui peuvent percuter d'autres objets qui volent.
Tout ça, bien sûr, c'est des phénomènes extrêmement complexes hein, qu'on essaye justement de décrire par un certain nombre de modèles qui s'appuient bien sûr sur les mathématiques et la physique. Il y a des corps, bien sûr, qui rentrent en interaction et tout ça, c'est soumis à une interaction fondamentale hein, qui est celle de la gravitation universelle, ce qui permet donc de pouvoir expliquer en fait le mouvement des corps, notamment des planètes autour du Soleil.
Mmh.
Bien. Mais en ce qui concerne ce milieu interstellaire, on a non seulement des particules, hein, des particules qui sont très petites, hein, de la taille des particules qu'on retrouve dans la fumée de la cigarette.
Hein, oui.
Hein, par définition, la fumée, c'est quoi ? C'est du gaz avec des particules solides.
Mm-hmm.
Et la particularité, justement, de ces composants solides, hein, ces particules, eh bien, ce sont des petites particules dont la taille est située entre 10 et 1000 nanomètres. Hein. Je rappelle, hein, le 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Hein. Donc là, on est réellement plongé dans l'infiniment petit. Et pour les particules dont les dimensions voisinent entre 400 et 800 nanomètres, eh bien, elles vont jouer un rôle bien particulier, c'est-à-dire qu'elles vont interagir énormément avec la lumière du visible. Hein, la lumière du visible, qui c'est un rayonnement donc, parmi tant d'autres. Alors, ces particules vont absorber une partie de la lumière, mais il y a une autre partie qui va être aussi diffusée dans l'espace. Et on assiste à des phénomènes assez curieux, des rougissements d'étoiles, justement à cause de ces phénomènes qui jouent en fait le rôle de filtre, hein,
oui,
qui vont filtrer de la lumière bleue,
mm-hmm,
et diffuser beaucoup plus donc de la lumière rouge. Et on parlera donc de rougissements interstellaire.
Justement, pourquoi il n'y a que ces deux nuances de lumière que l'on peut voir, même à l'œil nu d'ailleurs, le rouge et le bleu ? C'est rare quand on voit une lumière verte, mettons.
On voit des lumières vertes, oranges, hein. Il y a toute une gamme de couleurs. Hein. Et comme je l'avais expliqué lors d'une émission, ces couleurs sont fonction donc de la température, mais c'est fonction également aussi de ce milieu interstellaire.
Et oui, hein, je le comprends.
Ces fameuses poussières-là, qui sont, je dirais, empoisonnantes, si j'ose dire.
Oui, parce que pour vous, à l'observatoire, ça ne doit pas être évident de voir une planète à cause de ces poussières, justement.
Justement, hein, c'est le côté, je dirais, absorbant, en fait, de la lumière, qui nous empêche de pouvoir observer au-delà d'une certaine distance. Heureusement qu'il n'y a pas que la lumière du visible, il existe d'autres rayonnements tels que les infrarouges, les rayons X, et nous allons utiliser donc des instruments adaptés à ce type de rayonnement pour pouvoir justement franchir cette barrière qui est liée donc à ces particules, pour pouvoir mieux connaître la structure même de notre galaxie. Donc ça permet de mieux comprendre la répartition de la matière dite baryonique, hein, oui, qui est constituée de protons, de neutrons, d'électrons, hein,
oui,
qui structure notre voie lactée, hein, notre galaxie. Et grâce justement au gaz, eh bien, on va pouvoir utiliser notamment des radiotélescopes pour mieux connaître la répartition aussi de la matière gazeuse dans notre galaxie.
Oui.
Donc, si on arrive à connaître la répartition du gaz, hein, qui est de l'hydrogène, hein, qui est l'élément le plus abondant dans l'univers, et la répartition de la poussière dans notre galaxie, ça permet d'avoir une cartographie assez complète, hein, dans tous les types de domaines de rayonnement que nous pouvons observer, et avoir donc une vue, je dirais, un peu plus juste, en fait,
oui,
un peu plus précise de la structure de notre galaxie, qui sert bien entendu de laboratoire, qui permet de mieux comprendre aussi les autres galaxies, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre univers, il n'y a pas qu'une seule galaxie, hein, il y en a des milliers, hein, et ces galaxies-là ont des structures bien, bien particulières. Justement, pour en revenir à notre galaxie, hein, à la Voie lactée, on a ce gaz, hein, ce gaz et cette poussière qui constituent ce milieu interstellaire. Et grâce justement à cette matière qui est située donc dans ce milieu interstellaire, eh bien on va avoir des zones, d'accord, qui vont être beaucoup plus denses en gaz et en poussière que d'autres, hein. Ce n'est pas réparti de façon homogène,
oui, hein,
dans l'espace. Et ces poches de gaz et de matière vont donner naissance, entre guillemets, à ce qu'on appelle des nébuleuses. Ce qu'on appelle,
d'accord,
des nébuleuses, ce sont des poches de gaz et de matière.
Et c'est visible à l'œil nu, les nébuleuses ?
Tout à fait, c'est parfaitement visible à l'œil nu, et c'est beaucoup plus spectaculaire quand on réalise des photographies.
D'accord.
Alors, il existe grosso modo deux types de nébuleuses. Vous avez ce qu'on appelle des nébuleuses de réflexion, c'est-à-dire que vous avez une étoile qui est généralement très chaude à proximité et qui va envoyer des rayonnements en direction donc de cette poche de gaz et de poussière. Et ce réservoir de gaz et de poussière réémettra en fait la lumière donc qui provient de cette fameuse,
d'accord,
étoile grâce à des phénomènes de ionisation.
Oui.
Et on appelle ce type de région des régions dites H2 en astrophysique. Pourquoi ? Parce que ces régions-là, et plus particulièrement les atomes, hein, qui constituent cette poche de gaz, hein, ces atomes d'hydrogène entre autres, ionisent justement donc cette région-là et réémettent le rayonnement, mmh, dans des processus bon, qui sont assez complexes,
oui,
et on obtient des images particulièrement spectaculaires. Hein. Je prends par exemple les Pléiades, par exemple,
oui,
M45. Alors pourquoi on dit M45 ? Parce que c'est le 45e objet qui a été classé par l'astronome Charles Messier, hein, qui avait établi donc, oui, des catalogues pour répertorier justement tous ces astres. Et les sept sœurs, hein, qu'on appelle aussi l'amas ouvert des Pléiades, hein, le nom donc de l'association à la trappe, qui met en évidence justement ces phénomènes de diffusion de la lumière autour de ces étoiles. Et c'est particulièrement spectaculaire sur une photographie qui est réalisée à longue pause. Et parallèlement aux nébuleuses de réflexion, vous avez ce qu'on appelle des nébuleuses obscures. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont situées en arrière-plan de la poche de gaz, oui, et de poussière. Que se passe-t-il concrètement ? Eh bien, cette poche de gaz et de poussière va absorber justement les rayonnements des étoiles qui sont situées en arrière-plan. Et par effet de contraste, eh bien, on va pouvoir observer des silhouettes. Par exemple, la fameuse tête de cheval qu'on appelle aussi Barnard 33,
oui,
qui est située à 1500 années-lumière de nous. Ah bon, je vous rappelle, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres.
Moi, ça me fait trop rire. Voilà.
10 000 milliards de kilomètres, vous multipliez par 1500. Vous, oui, avez une idée de la distance. Alors, cette fameuse tête de cheval, hein, parce que concrètement, quand on réalise une photographie de cette région, on voit donc apparaître une magnifique, une curieuse, une singulière tête de cheval qui est située juste dans une région qui est proche de l'étoile Alnitak, qui est une des trois étoiles qui constituent le fameux baudrier de la constellation d'Orion. Alors si j'ai choisi justement cette nébuleuse, qu'on appelle donc nébuleuse obscure, c'est qu'elle est située dans une constellation qui est d'hiver, hein, qui est parfaitement, oui, visible à l'heure actuelle. Mmh. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir des nébuleuses comme par exemple M42 dans la constellation d'Orion, qui est située dans une région H2, une région ionisée, une région où le nuage de gaz et de poussière peut s'étendre jusqu'à 650 années-lumière. Hein. Vous voyez un petit peu la dimension de l'enveloppe, oui, en fait de gaz.
Alors, vous parliez de cette tête de cheval, là, justement, que l'on peut observer. Donc déjà, je suppose que sur le site, on doit les voir, ces photos.
Sur le site des Pléiades, à ma connaissance, bon, il y a beaucoup de photos, oui, donc je n'ai pas le souvenir qu'il y ait justement la fameuse tête de cheval, donc il faudrait regarder.
Oui, ma question c'est, est-ce que justement ce sont des mouvements de gaz? Et est-ce qu'on peut voir autre chose que cette tête de cheval? Je suppose que ça doit bouillonner tout ça.
Évidemment, tout ça, bien sûr, ça ne reste pas figé dans l'espace. Hein. Mais il faut bien comprendre une chose, que étant donné la distance aussi qui nous sépare de l'objet là, hein, la tête de cheval, comme la nébuleuse d'Orion M42... est situé à une distance de l'ordre des 1500 années-lumière. Mmh. Donc ça veut dire que l'information qui nous parvient met 1500 ans pour nous parvenir. Donc vous comprenez bien que s'il y avait un phénomène bien particulier dans la tête de cheval qui se réaliserait aujourd'hui,
oui,
on recevrait l'information que dans 1500 ans.
Oui.
Et je pense que dans 1500 ans, on n'aurait plus mal aux dents. Comment dire ?
Revenons un petit peu à ces gaz que l'on trouve dans le milieu interstellaire. Est-ce que ces gaz peuvent brûler ?
Ah, c'est tout à fait. Hein, ces gaz brûlent. Hein, vous avez des phénomènes d'interaction entre justement le rayonnement des étoiles chaudes. Hein. Donc, ce sont les étoiles, par exemple, de type O et B. Hein, ce sont des étoiles extrêmement chaudes, des étoiles bleues, qui émettent des rayonnements ultraviolets. Et justement, ces rayonnements ultraviolets, ce sont des rayonnements à haute énergie qui vont rentrer justement en interaction avec les atomes d'hydrogène hein, qui constituent justement ces poches de gaz, de matière interstellaire.
Oui. Et vous voyez, il vous est arrivé de voir ou que justement ces poches de gaz prennent feu, brûlent vraiment ou pas? Ou ça ne peut pas brûler comme nous on l'imagine?
Il y a des phénomènes de combustion, bien entendu, que nous connaissons sur Terre. Il faudrait que ça soit, je dirais, de façon en grosse quantité,
d'accord,
en fait, pour que ça puisse être détectable, justement, par notre œil, en fait.
Vous disiez aussi là qu'il y a plusieurs galaxies, et donc, est-ce que les galaxies se chevauchent l'une et l'autre ou pas, ou est-ce que c'est des choses bien distinctes?
Il y a les deux cas qui se présentent. Hein. Vous avez des galaxies qui sont très distantes les unes des autres. Hein. Par exemple, la galaxie d'Andromède, qu'on appelle aussi M31, qui est située à un peu plus de 2 millions d'années-lumière de nous. C'est une galaxie qui, à l'heure actuelle, est distante, mais qui a tendance progressivement à se rapprocher de notre Voie lactée.
D'accord. Mais ça se rapproche sans danger ou est-ce qu'il peut y avoir justement...
Des phénomènes d'interaction oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a deux galaxies hein, qui... Même on peut photographier à l'heure actuelle deux galaxies qui rentrent en interaction. Hein, on appelle ce type de galaxies des galaxies particulières parce qu'elles ne sont pas faciles du tout justement à classifier par rapport au fait qu'elles rentrent justement en interaction. Et ça peut générer en fait des effets de marée hein, qui déforment justement la structure de la galaxie. Voilà.
Alors quand vous dites effet de marée, c'est effet de marée sur Terre ou effet de marée dans la galaxie, dans les galaxies?
Voilà, tout à fait. Ce sont des effets de marée à l'échelle galactique,
d'accord,
bien entendu, qui peut avoir des impacts sur tous les processus mécaniques propres. Donc, à la galaxie.
C'est vraiment quelque chose de sympathique que vous nous avez encore présenté aujourd'hui. On va passer aux animations qu'il y aura aux Pléiades, parce qu'il y a beaucoup de choses, je suppose, en ce début d'année à voir. On vient au balcon des Pléiades avec un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut voir depuis les Pléiades?
Par rapport aux phénomènes qui seront visibles depuis les Pléiades, depuis notre belle région, hein, voire depuis la France. Le 3 janvier 2019, nous aurons les quadrantides.
Quesaco. Voilà.
Les quadrantides, eh bien, ce sont des étoiles filantes. Alors, généralement, on baptise les étoiles filantes en fonction de la position du radiant dans la constellation. En fait, le radiant, c'est un point virtuel d'où semblent provenir en fait, les fameuses étoiles filantes. Hein.
D'accord.
Hein, si je vous prends, par exemple, les Orionides...
Elles viennent du côté d'Orion.
Voilà, le radiant est situé dans la constellation d'Orion. Par contre, pour les quadrantides, alors c'est un petit peu particulier. Particulier parce que c'est un radiant qui est situé dans une constellation qu'on appelait la constellation du quadrant à l'époque, mais qui a été rebaptisée. Hein, le fameux radiant est situé dans la constellation du Bouvier. Et à l'époque, la constellation donc, du Quadrant était une constellation qui était à cheval sur les constellations d'Hercule, du Bouvier et du Dragon. Ce fameux radiant, lui, en fait, il est situé exactement dans la région de la constellation du Bouvier, qui n'est pas très loin de la Grande Ourse. Et le 3 janvier, eh bien, on aura le plaisir de pouvoir observer ces fameuses étoiles filantes hein, qui proviennent donc de cette région.
Mais qui proviennent de cette région et qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, c'est ça?
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Terre, sur son orbite, rentrera en interaction avec des particules solides hein, des résidus laissés par des anciennes comètes, oui, entre autres. Et puis, ces fameuses poussières, hein, cométaires, vont rentrer donc dans l'atmosphère. Et sous l'effet de l'attraction, eh bien, on va pouvoir observer ces fameuses traînées dans le ciel, sachant que les étoiles filantes, comme les quadrantides, peuvent atteindre les 40 km par seconde,
hein, ah oui,
au niveau de la vitesse. Oui. Bon, il y a des...
Ça se comprend aussi, quand ça rentre, ça ne doit pas avoir... ça ne rentre pas au ralenti.
Voilà, mais vous avez des étoiles filantes qui peuvent atteindre des vitesses, des célérités deux fois plus importantes. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui,
tout à fait. Là, bon, on peut s'attendre à observer... En étant très optimiste, grosso modo une centaine d'étoiles filantes à l'heure.
Voilà. À quelle heure faudra-t-il être debout ?
À quelle heure ? Eh bien, là, il est préférable de rester éveillé toute la nuit.
Ah oui !
Pour avoir les meilleures chances de pouvoir en observer. Hein. Oui. Parce que ça arrive que nous observions que des étoiles, grosso modo, 3, 4 étoiles filantes en espace de 5 minutes à peu près. Maintenant, il s'agit d'être bien orienté également, parce que ça peut provenir de toutes les directions éventuellement. Et ce n'est pas facile d'observer les étoiles filantes.
Hein. Bien. Le 5 janvier, Mercure.
Mercure sera en conjonction avec une nébuleuse, la nébuleuse du Lagon, hein, qui est située dans la constellation du Sagittaire. Cette nébuleuse, on l'appelle M8, hein, parce que c'est le huitième objet répertorié par Charles Messier. Hein. Et Mercure sera à proximité de cette fameuse nébuleuse.
Mm-hmm.
C'est peut-être intéressant de pouvoir essayer de photographier sur des champs relativement importants,
oui,
la présence de Mercure à proximité de cette nébuleuse.
Quelle heure ?
Ça sera au milieu de la nuit à peu près. Hein. Il s'agit de rester éveillé toute une bonne partie de la nuit pour pouvoir envisager de pouvoir observer ce phénomène-là.
Oui. Voilà. Et le lendemain, le 6 janvier, là, ça sera Vénus.
Vénus sera en effet en élongation ouest le matin. Quand on parle d'élongation, ça veut dire que Vénus se trouve à une distance angulaire par rapport au Soleil qui est relativement importante, intéressante justement pour l'observer. Et quand on parle d'élongation ouest, ça veut dire que Vénus sera non pas à gauche du Soleil, mais à droite du Soleil. Et on pourra l'observer avant le lever du Soleil, c'est-à-dire tôt le matin.
Mmh. On passe au 9, puisqu'on aura pu se reposer 3 jours quand même.
Oui, en effet, il s'agit de pouvoir récupérer.
Oui,
hein,
tout à fait.
Alors, bon, généralement, quand on observe la nuit, on fait bien sûr des pauses, hein. On prend un petit encas pour se réchauffer et pour prendre des forces, voilà, avant de réattaquer les observations. Le 9 janvier, il y aura donc la Lune à l'apogée.
Oui.
Alors l'apogée, c'est le point de l'orbite lunaire qui est le plus éloigné de la Terre.
Le contraire, c'est le périgée.
Et quand on raisonne avec le Soleil, par exemple, on parlera d'aphélie et de périhélie, voilà.
D'accord.
Hein, Hélie vient d'Hélios, Hélios, Soleil. Hein.
Mm-hmm.
Donc, aphélie, le point le plus éloigné du Soleil, et le périhélie, le point de l'orbite le plus proche du Soleil. Ce sont des vocabulaires qu'on utilise pour expliquer les distances les plus courtes ou les plus longues.
Oui.
Soit par rapport à la Terre, soit par rapport au Soleil.
Mm-hmm.
Et on peut appliquer ça également pour les étoiles. Et dans ces cas-là, on parlera d'apoastre et de périastre.
D'accord. Voilà. On va aller au 13 janvier, il y a des ombres de Jupiter à voir.
Le 13 janvier, ça c'est quelque chose de, je ne vais pas dire d'exceptionnel, mais presque, c'est que quand on observe Jupiter au télescope, ou même avec une petite lunette astronomique, eh bien, nous observons généralement quatre petites étoiles à côté. Ah. Ce sont les satellites galiléens. Hein. Donc il y a Io, Ganymède, Callisto, Europe, qui entre autres, hein, qui gravitent autour de Jupiter. Et en fonction de la position de Jupiter, de ses satellites par rapport à la Terre et au Soleil, eh bien, nous pouvons observer les ombres de ces satellites sur la surface de Jupiter. Quand on réalise des observations ou des photographies, eh bien, on peut mettre en évidence justement ces fameuses taches noires hein, qui se baladent sur la surface de Jupiter.
Et pour finir le mois en beauté, nous aurons une éclipse de lune.
Tout à fait, le 21 janvier, exactement, il y aura une éclipse de lune. Alors là, ce sera pour les plus courageux, hein. Cette éclipse de lune sera visible donc grosso modo entre 3h et 6h du matin. C'est une éclipse de lune, hein, pas oui. De soleil.
Oui, 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 hein. C'est bien l'ombre de la Terre qui va cacher la lune.
Voilà, tout à fait, hein, et pas le contraire. Oui. Hein. Dans une éclipse de soleil, c'est la lune qui vient s'interposer entre la Terre
exactement,
et le soleil.
Voilà, oui, et là, c'est voilà. Le contraire, c'est la Terre qui
et
est
et là, c'est le contraire,
qui est au milieu.
C'est-à-dire que c'est la Lune qui va passer dans le cône d'ombre de la Terre.
Oui.
Et donc là, ce sera une occasion pour l'observer.
Voilà, notre émission s'achève. On va dire le site des Pléiades pour justement aller voir quelques photos et avoir des renseignements.
Pour le site des Pléiades, c'est www.les-pléiades.asso.fr. Donc c'est une adresse un peu compliquée.
Oui, mais
donc
c'est...
vous pouvez toujours taper balcon des étoiles dans le moteur de recherche de Google,
exactement.
Par exemple.
Oui.
Hein, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver le site.
Mais si on fait aussi les Pléiades de la Trappe, ça marche.
Voilà, exactement. Hein, exactement. Et vous avez le 05 62 23 21 13. Hein, 05 62 23 21 13. Numéro que vous pouvez composé et on aura le plaisir bien sûr de vous renseigner et sachant que l'année 2019 aussi sera une année dédiée à la Lune,
hein, oui.
Notamment par rapport aux missions Apollo.
C'est vrai.
Voilà. Il y aura donc une exposition qui sera consacrée à la Lune courant de l'année 2019 avec quelques surprises dont je ne vous dis pas maintenant.
Bien sûr, c'est normal. Nous allons nous quitter pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain.
Oui, merci Gisèle pour votre accueil. Merci à toutes et à tous.